Voilà. Alors, on a un souci aujourd'hui, c'est qu'en choisissant la date du 7 mai, bon, on savait que c'était la veille du 8 mai, bon, donc période de pont, mais malgré tout, on s'était dit, chaque année, on a environ entre 50 et 100 personnes, et vous voyez que cette année, les rangs se sont un peu éclaircémés. Alors, c'est pas notre faute, simplement, il faut savoir que dans l'Académie de Lyon, par exemple, beaucoup d'établissements rattrapent les cours ce mercredi, aujourd'hui, y compris l'après-midi, pour pouvoir bénéficier du pont. Donc, ça nous a un peu perturbés au niveau de l'organisation, mais en tout cas, on remercie tous ceux qui ont bien voulu venir et qui sont toujours fidèles, et puis les nouveaux aussi qui viennent de très loin, puisqu'on a des gens du Québec cette année, on a des gens qui viennent de Paris, de Lille, etc. Voilà. Donc, on n'est pas très nombreux, mais on va, je pense, vous présenter des choses qui pourront vous intéresser. Alors, simplement, rappeler rapidement, nous travaillons dans le cadre donc d'une équipe qui s'appelle Eductis, donc une nouvelle équipe dont le directeur de l'équipe est là, donc Luc Trouche. Cette équipe travaille sur l'observation des usages, travaille sur la production de ressources numériques, travaille sur différents axes. Nous sommes un des projets, l'Observatoire de pratiques géomatiques. Alors, rapidement, là, sur la diapositive, vous voyez un petit peu quelles sont nos missions. D'abord, nous avons une mission de recherche. Nous faisons de la recherche contextualisée avec des expérimentations dans les classes, sur des logiciels, GeoNode, GeoExplorer, les globes virtuels. Nous faisons de la production de ressources pédagogiques. Et puis nous faisons, et cette année on va vous développer un peu cette action, nous faisons la formation de formateurs, qui est aussi une spécificité de l'INRP dans la mesure où la formation de formateurs permet de transférer un certain nombre de résultats de la recherche dans la formation. Alors, qu'est-ce qu'on a fait cette année? On a travaillé un peu quand même. On a publié le rapport d'enquête que vous avez peut-être consulté sur Internet. C'est un rapport qu'on vous avait présenté dans les grandes lignes l'an dernier. On l'a écrit et on a essayé de formaliser un petit peu ces résultats, puisque je vous rappelle qu'il y avait quand même eu plus de 800 réponses dans les deux disciplines. Et ça nous permet déjà d'avoir un panorama un petit peu des usages dans le domaine de la géomatique sur ces deux disciplines. Alors ce rapport, si vous n'avez pas lu, il est en ligne sur le site d'Eductis. Nous avons aussi une montée en puissance.
Pardon, Sylvain, on peut peut-être donner quelques grandes lignes des résultats du rapport, en fait.
Ah oui, oui, peut-être, oui. Bah, je vais vite parce que j'essaie de gagner du temps.
On a du temps.
Bon, ça va parce que. Alors, vas-y. Ouais, quelques lignes. Alors, oui, ce rapport montrait essentiellement que et c'est quelque chose qui va être repris ce matin, notamment dans la conférence de Thierry Joliveau. Les enseignants arrivent beaucoup par des usages individuels. Quelque chose qu'on pressentait, mais que l'enquête a confirmé. 80% pratiquement des enseignants. Alors peut-être que les résultats sont un peu forts dans la mesure où on passe par Internet. Et donc on a certainement un biais qui est lié aussi au mode d'interrogation, au mode de traitement des données. Mais malgré tout, 80% des enseignants ont utilisé Google Earth ou le géoportail à titre individuel ou avec leurs élèves. Donc on voit très bien que les usages se développent à partir de pratiques privées qui influencent en grande partie les pratiques scolaires. C'était une des conclusions de ce rapport. Il y en avait d'autres. Alors, je ne sais pas, Eric, si tu veux donner un autre élément sur ce rapport.
Moi, je mettrais peut-être en relief les besoins en formation par rapport à ces usages, justement, puisque les enseignants, habituellement, sont des enseignants qui vont transposer les outils de leur discipline dans leur pratique enseignante. Et là, on voyait plutôt des usages privés qui étaient transposés dans la classe. Et du coup, il y avait parfois un usage des globes virtuels, par exemple, qui n'étaient pas complètement pertinents dans certaines situations, d'après les résultats de notre enquête. Donc, ça mettait en relief les besoins de s'approprier de ces outils, d'en connaître les limites et de connaître les bons usages, entre guillemets.
Voilà. Alors, le deuxième aspect, c'est que nous avons cette liste de diffusion qui existe maintenant depuis 2 ans, qui commence à s'enrichir de multiples échanges. On avait créé cette liste de diffusion surtout pour mutualiser, pour partager des observations, pour faire de la veille pédagogique sur les outils, sur les ressources. Et je dois dire, ça commence à vivre. Au début, c'était surtout une liste de diffusion, c'était surtout Eric et moi qui diffusions l'information. Maintenant, on commence à avoir des échanges d'informations. On a toutes sortes de gens sur cette liste. On a aussi bien des enseignants, des formateurs, des producteurs de ressources, des gens de l'IGN par exemple. On a également des gens du Grand Lyon, donc si vous voulez, on a beaucoup d'échanges et ça commence à monter en puissance. À peu près 180 inscrits, on est assez content de voir cette liste vivre progressivement. Alors, il y a encore des efforts à faire. Ça reste encore, malgré tout, une liste d'informations, plus qu'une liste de discussions. Mais bon, ça commence à les débats commencent à se mettre en place. autre aspect de nos travaux de cette année, nous avons produit 4 parcours de formation que vous présentera Eric juste après sur les globes virtuels. Alors nous sommes actuellement dans un partenariat avec le ministère, avec la SDTIS, sur la production de parcours dans un dispositif que vous connaissez peut-être par ailleurs qui s'appelle Performance, qui est un dispositif qui concerne la formation au TIS par les TIS à partir d'une plateforme de formation. Et l'INRP, donc l'équipe éductis, est chargée de produire des parcours dans différentes disciplines. Certains concernent les mathématiques. Il y a eu 2 parcours de produits en mathématiques. Et nous avons pris en charge la production de parcours en ce qui concerne la géomatique pour les SVT et l'histoire géographie. Voilà, j'en dis pas plus parce qu'Eric va vous expliquer un petit peu en quoi consistent ces parcours. Et puis, dans la foulée, puisque nous étions en train de concevoir des parcours de formation, il nous a semblé intéressant de les tester. Parce que un des axes forts de l'équipe éductis, c'est de dire on fait de la conception dans l'usage. Et donc, on ne conçoit pas des ressources une bonne fois pour toutes qui sont ensuite utilisées par des formateurs et on ne sait pas trop bien ce qu'elles deviennent. On essaye de faire de la conception en même temps que les utilisateurs participent à la conception de ces ressources. Et donc, il nous semble intéressant d'utiliser la formation de formateurs pour tester. Et donc, on a pris 2 jours. Certains d'entre vous, qui sont d'ailleurs dans la salle, sont venus pour tester ces parcours, ce qui nous a permis de les faire évoluer. Et ils vont encore évoluer l'an prochain, puisque nous continuons à faire de la formation de formateurs pour voir ensuite les retours sur usage, ce qu'on appelle les retours d'usage, comment ces parcours seront mis en œuvre. Donc voilà un des aspects importants de ce qu'on a fait cette année. Et puis nous avons essayé aussi de communiquer, puisque vous savez que c'est important de communiquer nos résultats de recherche, et on a participé à différents événements. Alors le Festival international de la géographie, la conférence ESRI SIG à Paris, le géo-événement, Françoise de Blemac qui est parmi nous, qui cet après-midi interviendra comme grand témoin, également nous a invités à participer, on la remercie, à géo-événement. Et puis donc là maintenant nous passons même à la dimension internationale, puisque nous intervenons dans un réseau qui s'appelle Herodot, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un réseau au niveau européen. Et c'est toi, Eric, qui va faire une présentation bientôt en Bulgarie et puis en Autriche. Donc, vous voyez, donc, on essaye un petit peu d'ouvrir. Et c'était une des vocations de l'INRP qui est non seulement de partager et de faire de la recherche au niveau national, mais également de diffuser et de voir ce qui se passe au niveau international. Et donc, il faut qu'on arrive à tenir aussi la dimension internationale.
Oui, c'est-à-dire que ce qu'on observe en France, la diffusion de la géomatique dans l'enseignement secondaire et même primaire, d'ailleurs, on l'observe également chez nos voisins européens. Peut-être avec des modalités différentes, parfois des outils qui sont différents, mais en tout cas, ça vaut le coup de regarder ce qui se passe dans ces pays de manière à venir enrichir un petit peu ce qui peut se passer chez nous.
Voilà. Voilà. Alors, tu vas présenter peut-être le dispositif de formation, hein, Performance, qui a donné lieu donc à une production.
Je vais juste me déplacer comme ça. Voilà. Merci. Voilà. Donc, on a choisi cette année de vous présenter plus spécifiquement notre action qui concerne la formation et en particulier cette action dans le cadre de Performance. Alors je vous donne quelques éléments sur Performance. Donc c'est un projet qui ne concerne pas que la géomatique mais qui concerne plus globalement l'utilisation des TIC dans l'enseignement secondaire. Ça a été initié donc par le ministère et en tant qu'équipe nous avons répondu à un appel à projet pour la conception de parcours de formation. Alors, ces parcours de formation sont des parcours qui sont destinés à être mutualisés, c'est-à-dire qu'ils sont déposés sur une plateforme nationale et un formateur, un stagiaire peut venir s'inscrire sur la plateforme et utiliser donc à son niveau les ressources qui sont disponibles sur cette plateforme. Donc, on a souhaité nous bien participer à la conception de ces ressources. Alors, le projet Performance est un petit peu complexe au niveau de sa définition dans le sens où il y a différents niveaux d'intervenants dans cette formation. Il y a un niveau qui est le niveau concepteur, c'est-à-dire ce sont les personnes qui conçoivent et implémentent le parcours sur la plateforme. Ce sont aussi, Sylvain l'a dit, les personnes qui forment les formateurs qui vont servir de ces ressources. Bon, les formateurs, très clairement, ce sont nous, INRP, et je détaillerai très brièvement les personnes qui sont impliquées dans le projet. Il y a les formateurs. Les formateurs, ça pourrait être vous, puisque ce sont des personnes qui, dans leur académie, sont chargées donc de se saisir de ces documents et de les utiliser pour mettre en œuvre leur propre formation dans leur dans leurs académies, de le mettre en œuvre avec des stagiaires. Et comme le disait Sylvain tout à l'heure, on a un point très fort qui est pour nous, c'est que on pense que les formateurs ne sont pas simplement des utilisateurs de ces ressources, mais également des co-concepteurs, c'est-à-dire qu'ils s'approprient ces ressources et donc ils vont être amenés à les transformer au moment où ils les utilisent. Et puis bien sûr, il y a le niveau stagiaire, ça pourrait être aussi vous, mais je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà ont déjà passé ce niveau. Ce sont les personnes donc qui sont enseignants et qui vont avoir à rentrer dans ces parcours. Alors, il y a des choses dans ce parcours, c'est la partie, par exemple, où il y a des points communs, c'est-à-dire, la conception collaborative de séances, c'est-à-dire Monsieur Lelier, vont concevoir des séances pour leurs élèves et de manière collaborative, c'est-à-dire interagir entre différents enseignants. Et les choses se font en présentiel ou à distance, puisque les documents sont sur une plateforme. Alors les personnes qui ont conçu, eh bien ce sont des personnes qui sont à plein temps à l'INRP, comme Sylvain et moi-même. Et puis on a collaboré avec nos collègues de l'Académie de Montpellier, dont certains sont ici, certains en SVT, d'autres en histoire géographie. J'ai vu Ludovic tout à l'heure qui est arrivé, Ludovic Delorme. Vous voyez tout d'emblée que les parcours que l'on a conçus sont des parcours qui sont pluridisciplinaires. On a pensé que c'était vraiment très important de concevoir les choses en essayant de faire des ponts entre les disciplines, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous réunissent entre sciences de la Terre et géographie. Ce sont les outils, mais je pense qu'il y a aussi des choses qui tiennent des démarches qui sont employées avec les élèves. Alors, les objectifs du parcours que l'on a conçu. Alors, le parcours, on l'a appelé géomatique. Vous voyez que c'est pas très original, mais on a mis un arrobase, on a sacrifié à la mode. Alors, on s'est fixé des objectifs qui sont des objectifs qu'on a identifiés par rapport aux enquêtes qu'on a pu mener, hein, par rapport à la vision que l'on a de l'utilisation de la géomatique dans l'enseignement actuellement en France. Bon, il nous a semblé que les enseignants, c'était intéressant de les aider à connaître des exemples. Des exemples d'usage, ce que font leurs collègues, des exemples de ressources, quels sont par exemple les logiciels et les données qu'ils pourraient avoir à utiliser. On a jugé également intéressant de les aider à dégager les enjeux majeurs autour de l'utilisation de ces technologies, en termes de démarche, en termes d'apprentissage. Et puis on a jugé intéressant également de les conduire à expérimenter ces outils et ces démarches avec leurs élèves de manière à ce qu'ils s'approprient ces démarches. Sachant que on parle bien d'outils, de démarches qui n'ont pas en général été abordés par la formation initiale des enseignants. Ici, je parle de formation continuée, et la plupart d'entre nous, en tant qu'enseignants, on n'a pas effectivement été formés à l'utilisation de ces outils, parce qu'on est trop vieux en fait. Hein.
On est dans l'optique du C2I 2E, du C2I donc enseignant, qui vise à former non pas aux outils en tant que tels, mais à une utilisation raisonnée des outils. Hein. Vous savez ce qu'on fait à l'école avec le B2I. Eh bien, ces parcours de formation ont vocation aussi à valider le C2I enseignant. Hein. On est bien dans cette démarche-là et non pas dans la production d'outils en tant que tels. Hein.
Alors, on va rentrer dans des choses un petit peu plus concrètes. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans ces parcours de formation? Alors, on a jugé dans l'équipe qu'il fallait rentrer par les objectifs que les enseignants se donnaient. Et l'objectif qu'a un enseignant, c'est de faire quelque chose avec ses élèves. Donc, on a essayé de distinguer différents niveaux. Il y a des enseignants qui sont des grands débutants, qui ont commencé à ouvrir Google Earth pour chez eux et qui pensent que ça peut être intéressant le géoportail, pardon, ou d'autres globes virtuels. Je dis Google Earth parce que c'est encore le plus utilisé, mais les résultats de l'enquête montraient que le géoportail était également très très utilisé. Donc des enseignants débutants qui connaissent ces outils, qui se disent bon, j'aimerais faire en faire quelque chose avec mes élèves, je pressens que c'est intéressant, mais bon, ils sont un petit peu démunis parce qu'ils n'ont pas de d'informations, et donc on a jugé qu'il était nécessaire de réaliser un parcours dans lequel les élèves, simplement les enseignants amèneraient leurs élèves à utiliser ces outils pour visualiser des informations géologiques ou géographiques. Donc il y a un module qui est un module, on va dire niveau 1, le premier parcours. Il y a un niveau peut-être un peu au-dessus qui est un niveau où l'enseignant est plus expérimenté, donc il peut s'avancer sur des terrains un peu plus complexes avec ses élèves. Il va pouvoir demander à ses élèves de manipuler, de traiter des données. Donc il y a des outils de manipulation, de traitement de données dans ces globes virtuels, et on a conçu un parcours qui porte sur ces compétences. Un niveau supérieur, ça serait le niveau maintenant d'utiliser ces outils pour rentrer dans une pédagogie de projet où on essaierait de résoudre un projet. Il y aura par exemple des choses qui seront présentées par des enseignants cet après-midi où vous verrez que les élèves, par exemple, sont engagés dans un jeu de rôle et essayent de résoudre un problème géologique ou géographique. Et puis... Enfin, un parcours qui me tient particulièrement à cœur, de par ma formation, c'est le parcours qui porte sur le lien entre l'utilisation de ces outils et le travail sur le terrain. Et cet après-midi, il y aura un atelier qui portera spécifiquement sur cet aspect. On a développé un parcours donc qui est destiné à aider les enseignants à préparer, exploiter une sortie pédagogique, on dirait classe de terrain en sciences de la Terre. Alors, un parcours est décrit par différentes étapes que je vais brièvement vous présenter. Il y a au cours de ces étapes un premier contact de l'enseignant avec le parcours qui est, on lui décrit le parcours et l'enseignant et le stagiaire est amené à s'auto-évaluer de manière à savoir dans quel parcours il va rentrer en fonction de ce qu'il veut faire et en fonction de ce qu'il sait déjà faire. Il y a ensuite des documents, des activités, des ressources qui conduisent l'enseignant ou le stagiaire à conduire une réflexion pédagogique sur les compétences disciplinaires et sur l'intégration des TIC dans sa classe. Et une étape au cours de laquelle il est conduit à prendre en main ses outils, au cours de laquelle il est conduit à apprendre à se servir des outils qu'on utilise. Alors les étapes 2 et 3, en fait, peuvent être inversés suivant les parcours. Parfois, il est plus judicieux de savoir de quel outil on parle avant de d'y réfléchir sur leurs usages. Et parfois, des connaissances très superficielles sur ces outils permettent de réfléchir sur leur usage. Donc, selon les parcours, on a une inversion de ces deux étapes. Ensuite, les stagiaires sont amenés à concevoir des séances de classe. Donc, il y a une espèce de mise en pratique de ce qui a été vu précédemment. Ça se fait plutôt en ligne, ça se fait de manière collaborative avec des groupes d'enseignants qui travaillent à distance et qui échangent. Et puis, à un moment, donc, les enseignants sont amenés à se rencontrer physiquement parce que c'est important. Sinon, les choses sont difficiles à mener jusqu'au bout et présenter leurs réalisations, présenter ce qu'ils font dans leur classe et échanger avec leurs collègues sur le travail qui a été réalisé. Alors, évidemment, une évaluation du travail réalisé à la fin du parcours. Alors, quelques ressources que l'on a conçues, que l'on a mis en place pour vous donner une idée des documents que les stagiaires utilisent et donc des documents qui sont à la disposition des formateurs. Alors, par exemple, en ce qui concerne la réflexion pédagogique sur l'utilisation de ces outils, on voit ici un extrait d'un document qui comprend des photographies, qui comprend des vidéos et on demande aux stagiaires de consulter ces documents et de repérer un petit peu à quel moment on peut utiliser les technologies dans le cas d'une classe de terrain. Donc en fait, il y a tout un tas de documents. Donc les stagiaires sont amenés à repérer que ces outils, on peut les utiliser enfin à différents moments dans la conduite d'une classe de terrain. Alors là, vous avez un exemple qui a été mis de manière un peu emblématique, c'est l'utilisation d'un pocket PC pour écouter des consignes lors d'un travail sur le terrain par des élèves. Mais il y a des choses, bien sûr, beaucoup plus élémentaires. Hein. Il y a l'utilisation, par exemple, d'un appareil photographie numérique. On a essayé d'être le plus exhaustif possible par rapport à ce que l'on connaît de l'utilisation de la géomatique actuellement et le travail qu'on a fait d'enquête, de suivi des expérimentations en classe, les journées géomatiques également nous permettent d'avoir une bonne vision de ce qui se fait actuellement. Hein. C'est l'intérêt aussi de ces journées. En ce qui concerne la réflexion pédagogique, bon, il se trouve que Sylvain l'a dit, on fait de la recherche, hein, et par exemple en recherche, ça nous amène à enregistrer les élèves, à les suivre d'un point de vue informatique, d'un point de vue ce qu'ils font avec les logiciels. Ici, on a mis un extrait d'élèves qui sont en train de travailler sur le terrain, un extrait donc une transcription de l'enregistrement audio, et on demande aux stagiaires donc de travailler sur ces audios pour essayer de repérer un petit peu les apports de ces technologies d'un point de vue de l'apprentissage. Donc il y a un travail véritablement sur des traces d'élèves, traces étant pris au sens de ce que l'élève laisse après son passage en termes de traces informatiques, d'audio ou de documents qu'il a lui-même réalisé. Voilà un exemple ici de documents sur lesquels on demande de travailler aux stagiaires. La réflexion pédagogique, elle porte aussi sur les limites de ces outils. Bon, ça c'est un document qu'on aime bien présenter avec Sylvain, c'est Ludovic qui nous l'avait sorti. Quand on présente ce document aux stagiaires, bon, ils voient tout de suite la limite des outils. Bon, ici c'est le Cap Canaille, on voit la route acrobatique sur la falaise. Bon, en fait le modèle numérique de terrain de Google Earth n'est pas suffisamment précis et on se retrouve avec des anomalies, hein, des artefacts, hein, au niveau de l'interface. Et c'est important que d'une part les enseignants prennent conscience de la limite de l'utilisation de ces outils. Vous imaginez que si on met de la géologie là-dessus, ça va donner des choses très très bizarres d'un point de vue géologique et ça sera pas du tout valide d'un point de vue scientifique. Et c'est important que les enseignants répercutent ces connaissances sur les limites des outils auprès de leurs élèves qui sont des utilisateurs lambda de ces outils, de manière à ce que il y ait bien une réflexion qui soit faite entre les relations entre ce qui est modélisé dans les outils et le réel, hein, puisqu'il y a souvent une confusion entre les globes virtuels et la réalité. Et en particulier avec des choses qui sont dites sur les forums, par exemple, qui conduisent à dire oui, quelqu'un s'est perdu dans le désert, donc on va tous regarder un petit bout du Sahara sur Google Earth de manière à essayer de retrouver cette personne dans le désert. Je vous parle de choses que j'ai vues, hein, véritablement sur les forums. Bon, il y a un enjeu, hein, au niveau là de la constitution de la culture numérique des adolescents qui est très très fort, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi ces thématiques de travail avec Sylvain et avec nos collègues enseignants de l'équipe. Voilà, pour un petit peu pour les aspects pédagogiques. Vous voyez, ça dépasse, ça va assez loin. Bon, ça touche bien sûr au B2I. Hein. Bon, ça n'empêche pas qu'il faut bien se poser des questions après sur la question de prise en main des outils. C'est pas forcément toujours évident. On a essayé dans la formation de le faire de manière un petit peu convivial. Par exemple, la prise en main de Google Earth se fait à l'aide d'un jeu de piste. C'est-à-dire que il y a la possibilité donc de naviguer sur Google Earth et à chaque fois qu'on arrive à un endroit donné, il y a des informations qui sont données pour arriver à un autre endroit. Et donc, pour passer d'un lieu à un autre, le stagiaire, il va utiliser les différents outils de navigation. Zoom, mesure de distance, déplacement sur la carte, recherche avec l'outil de recherche dans Google Earth. Et ça permet d'avoir un apprentissage du logiciel qui n'est pas, qui est plus convivial que la simple lecture d'une fiche technique qui explique les différentes fonctionnalités du logiciel. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que cette ressource qui a été conçue pour les stagiaires, on l'a bien vu lorsqu'on a testé notre parcours, c'est que les formateurs disent « Ah bah oui, mais après, les stagiaires vont l'utiliser avec leurs élèves, parce que finalement, c'est assez simple pour être utilisé avec des élèves et c'est des choses qui peuvent être transposées. » Alors sur la prise en main des outils, on a notre grand technologue Ludovic, hein, qui nous fait des fiches et puis chaque fois qu'il y a une nouvelle version, il s'est engagé dans les 12 heures ou 24 heures à produire une nouvelle fiche, on l'en remercie, même le dimanche. Et donc ces fiches sont consultables en ligne, le parcours de formation nous y renvoie. Et puis je vous l'ai dit, il y a l'aspect construction collaborative de séquences de classe. Alors là, on a identifié dans l'équipe un certain nombre de choses qui sont faites par des enseignants de géographie ou de sciences de la Terre, et parfois même de manière pluridisciplinaire. Et donc on a un petit peu analysé ces séquences qui sont en ligne, et on y renvoie les stagiaires de manière à ce qu'ils aient des exemples de pratiques qui ne sont pas forcément des bonnes pratiques ou des exemples de pratiques, mais en tout cas qui donnent des idées sur ce qui pourrait être fait avec des élèves. Voilà, Sylvain va vous présenter maintenant le programme de la journée, maintenant qu'on a situé un petit peu le contexte.
Direction par rapport à ce qu'a présenté Eric, là sur performance, vous connaissiez ce dispositif, non? C'est une découverte pour vous. Ça va monter en puissance parce qu'il y a beaucoup de parcours qui sont en train d'être produits. Le ministère souhaite que cette plateforme puisse pallier en partie au déficit de la formation continue actuellement qu'on constate dans différentes académies. Donc c'est quelque chose dont vous allez entendre parler, surtout si vous êtes enseignant ou formateur. Certainement, vous aurez peut-être à le mettre en œuvre.
Oui, je propose que tu as raison. On peut prendre un petit temps de questions s'il y a des questions sur l'observatoire lui-même ou sur le parcours de formation. Et ensuite, on abordera des questions plus pragmatiques d'organisation de la journée une fois que le programme sera présenté.
Voilà. Donc, on n'est pas très nombreux. Profitons-en pour échanger.
Hein, je prends le micro s'il y a des questions dans la salle.
Tout est clair.
C'est toujours la difficulté de la première question. Puis là, il faut qu'on fasse. J'ai calculé qu'il fallait faire au moins 35 secondes de silence, voilà, de manière à ce que quelqu'un se décide à le rompre.
Bon, bah, c'est qu'on a été clair. Alors,
pas 35 minutes. Il n'y a pas 35 secondes. Ah, vas-y, continue.
Vous avez le programme en main, donc vous savez un petit peu quelles sont les réjouissances. Simplement, ce matin, donc, on reste tous ensemble en plénière dans cette salle. Le directeur a expliqué un petit peu tout à l'heure dans les grandes lignes. Je reprends rapidement. Donc Pierre Lelier, qui vient d'arriver, IGN, va nous présenter un peu en avant-première et du Géo, qui est le service éducatif du Géoportail. Et donc on est assez content de voir sortir ce service éducatif parce qu'on l'attendait depuis longtemps. Et donc c'est une bonne chose. On vous présentera rapidement auparavant deux autres projets qui sont soutenus par le ministère. On nous a mandaté, l'ASDETIS nous a mandaté pour les présenter parce qu'il n'y avait personne pour venir le faire, mais on le fera aussi bien qu'on peut le faire, c'est-à-dire que avec les informations qu'on a, il s'agit de Navidis, un projet auquel participe d'ailleurs l'association des Clionautes, qui est présente ici en présence de Caroline Junotion, qui est la présidente des Clionautes. Géocube également, qui concerne plus la géologie. Ensuite, une conférence de Thierry Joliveau, donc professeur géographie au CRENAM, hein, Université de Saint-Étienne, qui donc développera sur les aspects géomatiques professionnels et géomatiques personnels. Hein, on a commencé en parler tout à l'heure à propos de l'enquête qui montrait bien que beaucoup d'enseignants arrivent par des usages privés, des usages personnels. Est-ce que c'est bien, pas bien? Qu'est-ce qu'on peut en faire d'un point de vue éducatif? Et puis ensuite, une conférence de Mathieu Rondeau, qu'on est très content d'accueillir, hein, qui vient d'outre-Atlantique, hein, québécois, qui travaille dans un laboratoire qui est très connu, hein, de géomatique à l'université de Laval, donc sous la responsabilité de Stéphane Roche, et donc qui va nous présenter un petit peu comment la géomatique est envisagée, est enseignée et divulguée, hein, auprès des enseignants, des élèves du Québec. Et vous allez voir que c'est pas tout à fait pareil qu'en France, hein, y a un regard qui est un peu différent, une entrée différente. Voilà pour ce matin. Ensuite, donc, pause déjeuner jusqu'à 13h30. Alors, on a un changement pour l'après-midi. Donc, la première conférence sur la géomatique à l'école primaire, on était très contents d'avoir quelqu'un du premier degré parce que c'est pas si souvent, hein, que la géomatique apparaît dans le premier degré. Eh bien, cette personne qu'on connaît bien, qui est Pascal Bouche, que vous devez connaître parce qu'il intervient souvent sur la liste, il a plein de petits trucs, il connaît tous les logiciels, c'est un géotrouve-tout, hein, de la géomatique premier degré. Donc il est venu nous voir pour la formation de formateurs au mois de mars, mais là il est en panne de train, hein. Il n'y a pas de train aujourd'hui, il n'y a pas de TER, c'est terrible, donc il n'a pas pu venir. Donc on va décaler à 14h 14h la série de communication pour cet après-midi, où là, on a essayé de mêler Histoire Géo SVT. Vous aurez donc la présentation d'un SIG géohistorique, Philippe Bria, qui a travaillé donc sur une plateforme GeoWeb Explorer, qui est hébergée par l'Université de Saint-Étienne, et qui vous présentera, c'est pas si souvent qu'on a l'application d'un SIG en histoire. Alors Jean-Marc Bonnefoy travaille aussi là-dessus, et je pense que c'est intéressant aussi de voir aussi, pas seulement géographie, mais également qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue géohistorique. Ensuite, 14h30, développement durable et aménagement de Port 2000. Alors, je sais pas si Cyril Chepin est parmi nous. Oui, il est arrivé, voilà, bonjour. Donc, il va nous présenter un projet Port 2000 hein, qui concerne donc l'Académie de Rouen, qui travaille aussi sur une autre application qui vous présentera. Et puis à 15h, vous aurez donc une typologie des usages des globes virtuels en classe, un travail qu'on a fait avec Caroline, qui est donc professeure associée à l'INRP, et qui vous montrera un petit peu quels sont aujourd'hui les types d'usages des globes virtuels et vers quoi on va et comment on pourrait y réfléchir pour produire de nouvelles séances. Je pense que c'est assez intéressant pour voir un petit peu d'un point de vue pédagogique qu'est-ce qu'on peut faire avec ces outils-là, et notamment avec le géoportail. Hein. Voilà. Alors, il faut bien voir que ces communications l'après-midi ont une spécificité, c'est qu'elles ont lieu en parallèle avec des ateliers. C'est-à-dire que vous allez à l'atelier, vous allez à la communication, on ne peut pas faire les deux. Hein. On crée un peu de frustration, mais il faut choisir. Donc, en parallèle... Hein, En parallèle, donc, vous avez une série d'ateliers hein, et il faut vous inscrire ce matin. On a dû vous demander à l'accueil de vous inscrire. Si ce n'est pas fait, il faut le faire avant midi. Il faudrait qu'il y ait une petite dizaine de participants par atelier, si possible. Donc, vous avez deux séries d'ateliers. Première série... il s'agit d'un atelier GPS, parce qu'aujourd'hui, ça arrive très fort le GPS, et on a envie de mettre sa trace GPS de randonnée ou de sortie terrain dans Google Earth ou dans le géoportail, on voudrait pouvoir récupérer ça. Donc on a fait un petit atelier spécifiquement pour ceux qui voudraient s'initier à la prise de trace GPS et à sa visualisation dans un globe virtuel. Ensuite, un deuxième atelier qui a lieu dans la même salle de formation, la salle 1.
Le premier atelier sera animé donc par Ludovic, qui est ici. Je présente.
Voilà, Ludovic est là, qui vous montrera tout ça. C'est un spécialiste, il connaît tout, GPS, les tablettes PC. Enfin, c'est aussi notre monsieur GPS chez nous, à l'INRP. Ensuite, présentation de WinGIS. Alors, un logiciel qui est spécifique parce qu'il a été développé par un enseignant, Jean-Marc Bonnefoy. C'est un logiciel libre, il est là dans la salle, on l'avait déjà vu il y a 2 ans, il avait commencé à nous en parler, cette fois-ci c'est opérationnel, il va nous montrer ça, et avec un jeu de données, donc un logiciel libre hein, pour s'initier au SIG. Et puis, deuxième série d'ateliers, alors là c'est différent, c'est François Cordelier qui nous montrera, voilà ici dans la salle, François voilà qui travaille en SVT à Nantes, dans l'Académie de Nantes depuis très longtemps, qui est tombé tout petit dans les SIG, ça fait des années qu'il est dedans. Pas plus de 6 ans, hein, j'aurais dit au moins 10 ans, bon. Mais enfin, qui a développé beaucoup de ressources, hein, en tout cas, et qui travaille à partir d'un logiciel qui s'appelle MapWindow, qui est un logiciel américain, qui est libre, et qu'il a adapté hein, pour ses besoins d'enseignement. Voilà. Donc, vous choisissez un de ces ateliers. Par contre, ça veut dire que vous êtes privé de conférence. Mmh. Alors, il faut choisir hein, l'un ou l'autre. Bon, alors, vous pouvez tourner quand même sur un atelier de 13h30 à 14h30, puis récupérer une conférence. Vous pouvez zapper, hein, comme ça se fait aujourd'hui avec la télévision. Vous pouvez zapper d'un truc à l'autre. Mais si vous faites quand même un atelier, quand même restez au moins dedans jusqu'à 15h30, et puis ensuite, vous changerez. Et puis... on revient en plénière, alors c'est un peu compliqué parce qu'on essaie de faire tenir tout ça dans une journée. Donc on revient en plénière à 15h45, vous aurez une petite pause de 15h30 à 15h45, et là, on a à nouveau 3 conférences, donc il n'y a plus d'atelier. Et là, vous avez le choix entre une conférence sur la présentation de l'Europe, d'un travail d'ailleurs tout récent qui vient d'être expérimenté par Jean-Paul Colicard et Martin Trisson-Chieux sur un SIG en ligne. Ça sera en salle de conférence. Et puis, 2 conférences qui concernent les SVT. Géologie 3D avec Google Earth et Google SketchUp. Donc, François Tilquin, qui est parmi nous également, dans la salle. Non, je l'ai vu ce matin. Il est là, voilà. Qui vient de l'Académie de Grenoble. Qui travaille sur une application pas très connue de Google qui s'appelle Google SketchUp, qui permet de faire de la 3D, de produire de la 3D. Et puis, un travail aussi assez original de l'Académie de Nancy-Metz, qui sera présenté par, je crois que c'est Christophe, Marcignac, il est parmi nous.
Et il va arriver un peu plus tard, parce qu'il avait des soucis de train aussi, donc il arrive plutôt en fin de matinée, d'après, à 11h, m'a dit.
Voilà, alors lui, il présentera quelque chose de assez particulier, qui est, ça correspond donc à un travail collaboratif de saisie sur la plateforme, sur le site de l'Académie de Nancy Metz, de sortie terrain en géologie.
Hein, alors, précisément, en fait, l'idée que de permettre aux enseignants de SVT, de l'académie, de mutualiser leur sortie de terrain. Et donc, il a développé un dispositif dont je suppose qu'il est en mesure de diffuser, qui permet aux enseignants de déposer sur leur plateforme les sites géologiques intéressants, de manière qu'au sein du même académie, on puisse avoir accès, en tant qu'enseignant, à l'ensemble des ressources géologiques de terrain.
Voilà. Quelque chose qui nous a paru assez original aussi. Voilà, donc faites votre choix ce matin. Pour cet après-midi, il faudra donc vous répartir dans les différents ateliers et différentes conférences.
Sachant que la seule chose qui est obligatoire, c'est si vous souhaitez aller à un atelier, de vous y inscrire, de manière à ce que les organisateurs des ateliers soient à même de gérer le nombre de personnes qui sont inscrites.
Voilà. Alors, d'habitude, les autres années, nous faisons une table ronde. Cette année, comme nos effectifs sont un peu plus réduits, puis on s'est dit qu'il faut renouveler un peu la formule, on va demander à un témoin, donc qui est Françoise de Blomac, qui est ici sur la droite, là, Françoise, voilà, qui est très connue dans le domaine de la géomatique parce qu'elle s'occupe d'une lettre qui s'appelle SIG la lettre, et qui permet de diffuser beaucoup d'informations. Alors, dans le domaine de la géomatique au sens large, de la géomatique professionnelle, on s'est dit il faut l'inviter aussi pour qu'elle parle et qu'elle nous dise ce qu'elle en pense par rapport à la géomatique dans le domaine de l'éducation. Alors elle va nous servir un petit peu de témoin et puis on échangera bien sûr avec elle, on la laissera pas parler toute seule, on va pas l'abandonner, mais l'idée c'est qu'elle nous fasse part un petit peu de ce qu'elle a vu et de ses ressentis, de ses réactions par rapport à tout ce qu'elle a observé dans la journée. Voilà. Donc on la remercie d'être venue parmi nous aujourd'hui. Voilà, pour le programme, bon, on est à peu près dans le timing.